D'après le ministère de la Santé, 75 services d'urgence sont actuellement en grève. Débuté à Paris en mars, ce mouvement gagne du terrain. Des soignants de certains hôpitaux parisiens se sont même mis en arrêt maladie.
Quel est votre sentiment? Parce qu'on voit bien que cohabite une médecine hospitalière, une médecine publique, avec une médecine libérale. Qu'est-ce que vous dites, vous, ce soir? C'est ce mariage qui ne fonctionne plus entre des médecins généralistes qui sont de moins en moins nombreux, donc de moins en moins disponibles, et une médecine hospitalière qui est évidemment au bord de l'implosion.
Non mais le gouvernement a une responsabilité écrasante. Ce sont des choix qui sont faits. Des choix, effectivement, de diminuer les effectifs dans les hôpitaux, de fermer des services de proximité, des maternités. Et ça, ça dure effectivement depuis un certain nombre d'années, mais ça continue, parce que quand vous expliquez qu'il y a effectivement, vous êtes en train de voter une loi à l'Assemblée nationale, mais précisément, cette loi, elle est dénoncée par les grévistes, parce qu'ils se rendent bien compte que les moyens qui manquent ne sont pas mis sur la table. C'est une question effectivement de gros sous, c'est une question d'argent, parce que bon, on va nous expliquer, ah oui, mais un médecin, il faut 8 ans pour le former, etc. Bon,
numerus clausus augmenté, okay, mais ça n'arrivera pas tout de suite.
D'accord, mais oui. Des brancardiers, des aides-soignantes, tout le personnel qui manque, parce que là, il a été aussi question de brancardiers. Bon, et pourquoi continue-t-on de fermer des services de proximité? Donc, il faut arrêter avec cette politique où, effectivement, il n'y a pas d'argent pour les services essentiels et vitaux pour la population, alors qu'il y en a pour faire des cadeaux, encore une fois. Quand même l'impôt sur la fortune qui a été supprimé par ce gouvernement, ces 3 milliards-là, eh bien précisément, il manque, parce qu'il pourrait y avoir un plan d'urgence, effectivement. Moi, ce que je vois, c'est que dans cette société, on est capable de mettre en place des mobilisations incroyables, exceptionnelles. Je pense à Notre-Dame de Paris, par exemple. Eh bien, pour les urgences...
Vous aviez beaucoup réagi, en effet.
Pour les hôpitaux, eh bien, il n'y a personne. Il n'y a pas, de mobilisation générale, alors qu'il en faudrait une. Et moi, je comprends les grévistes, effectivement, qui veulent effectivement faire un électrochoc aujourd'hui. Parce que depuis des décennies, tout le système ne fonctionne que grâce à leur dévouement, justement. Mais il y a un moment donné où on dit ça suffit.
Juste, vous dites qu'il y a un problème dans la façon dont on prend soin de ceux qui prennent soin de nous quand on est malade dans ce pays. Oui. Je veux dire, la rémunération des soignants, des aides-soignants, des infirmiers, de toutes les personnes avec qui j'ai eu l'immense bonheur et la chance de travailler à l'hôpital public, c'est une rémunération qui n'est pas suffisante au regard des missions. Il y a une prime qui vient d'être accordée qui est quand même significative. 70 euros net par mois pour toute personne qui travaille au sein des urgences.
C'est 300 euros la revendication des...
Oui, mais alors, il y a 70 net qui vient d'être accordée. C'est quelque chose.
Mais ce n'est pas le seul problème.
Mais de façon générale, je peux vous rejoindre sur le principe qui est le suivant, c'est qu'il va falloir de toute façon que tôt ou tard dans notre pays, nous tenions davantage compte de ces métiers, souvent des métiers qui, à la base, étaient des métiers très féminisés, qui sont des métiers d'aide à la personne, d'aide aux plus fragiles, et qui sont
donc
des métiers
pour lesquels on part avec... Le plan non, attendez, de Mme Buzyn.
Avec 40 ans de retard, c'est ça que je veux dire. Il faut tous qu'on soit modestes, quel que soit notre camp.
Quelle est la position du Rassemblement national sur l'idée d'obliger, de pousser des médecins dans des zones désertiques, où parfois un médecin s'en va, n'arrive pas à trouver de remplacement, évidemment. C'est un énorme problème.
Vous n'obtenez jamais rien par la force. Donc, il faut une politique incitative et pas une politique coercitive qui ne servira à rien.
C'est un mouvement de gilets blancs qui est en train de se créer, là, parce qu'il y a eu les gilets jaunes et certains...
Tout ça est finançable, parce qu'on entend toujours beaucoup de choses, mais est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a en France 120 millions de numéros de sécurité sociale pour 67 millions d'habitants. Il y a des fraudes qui existent. Il faut aller chercher au niveau des fraudes l'argent.
Le rapport sénatorial montre que tout ça est bidon.
Non, c'est justement pas vrai.
C'est un
rapport sénatorial. LR, je suis rapporteur général du budget de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale.
Mais écoutez,
c'est bidon.
Il y a des fraudes ou pas?
Non, mais les fraudes sont estimées à quelques dizaines de milliers d'euros. C'est rien du tout.
Vous voyez, vous rendez service au gouvernement en...
Vous n'êtes pas pour la chasse à la fraude sociale.
En détournant le débat.
Pour financer l'hôpital.
Mais c'est de la fausse. C'est de la chasse, effectivement, qui est.
Je vous parle de fraude.
C'est toujours pareil. Mais c'est la chasse aux plus pauvres que vous faites. Vous,
mais pas du tout, madame.
Vous savez que
aux arnaqueurs.
Ça.
C'est pas la même chose.
Moi, ce que je pense.
Donc vous défendez les arnaqueurs.
Je pense qu'il faut un plan d'urgence. Voilà, pour les services d'urgence, il faudrait un plan d'urgence. Et dans un pays riche,
c'est ce que réclament les syndicats,
comme la France, bien sûr qu'il y aurait de quoi faire. Alors, pour les services d'urgence, mais pas seulement, d'ailleurs il a été souligné qu'en réalité c'est l'ensemble de l'hôpital qui est malade, et plus largement, on pourrait parler aussi des EHPAD, parce que les EHPAD, on va nous expliquer qu'on n'a rien fait pendant 20 ans, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, ce plan, c'est maintenant qu'il faut dégager l'argent, c'est maintenant qu'il faut...
Mais on est en train de le faire,
mais il faut mettre de l'argent.
Alors, on va mettre 8 milliards. milliards d'euros par an.
Moi, ce que j'observe, c'est que, y compris les maires des petites communes, ils se démènent comme ils peuvent pour faire, essayer de faire effectivement des maisons de santé. Mais il manque de moyens. Ça, c'est une politique que l'État devrait porter. Et oui, bien sûr, ça commence par ça, parce qu'on culpabilise aussi hein, les femmes et les hommes qui sont obligés d'aller aux urgences, mais parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont personne, personne à qui appeler. Mais vous savez que même aujourd'hui, dans certaines campagnes, pour prendre rendez-vous chez le généraliste...
C'est, on ne parle pas des spécialistes, hein, parce que là, c'est des semaines, voire des mois d'attente.
Des spécialistes. Ouais. C'est devenu la croix et la bannière, bon, c'est ça la réalité.
Olivier Véran, avant... Retour sur le plateau du Grand JT avec Nathalie Arthaud, Olivier Véran, Laurent Giacobelli pour s'intéresser à un sujet. Alors, en apparence, qui pouvait ressembler à un incident de football bien malheureux, des sifflets pendant les hymnes lorsque les Français rencontraient ce week-end la Turquie. C'est un match important, d'ailleurs, un qualificatif à l'Euro, que l'on a perdu 2-0, faut-il le préciser. Des sifflets ont retenti sur l'hymne. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les relations entre la France et la Turquie sont complexes.
Non, mais alors là...
Au-delà même du football, d'ailleurs.
Là, je vous arrête tout de suite.
Arrêtez-moi.
Oui, parce que...
Vous voulez qu'on s'arrête au football?
Mais non, mais franchement, enfin... Toutes les occasions sont bonnes, mais alors n'importe quelle occasion, hein, pour faire du chauvinisme, du nationalisme. Enfin voilà, moi je trouve ça ridicule.
Madame, insulter l'hymne national, c'est pas faire du chauvinisme. Moi, je sais que vous n'en avez rien à faire.
Tout est monté en épingle. Moi je suis pas une spécialiste. Je ne vais pas dans ces stades, mais j'ai cru quand même comprendre que c'était assez fréquent quand même, assez fréquent de si. Enfin je sais pas, moi je vous dis, je m'y connais pas, hein, mais. Voilà, siffler les joueurs, se moquer d'eux, mettre la pression, etc. Voilà. Donc, si la France avait gagné...
C'est parti du foot, quoi.
Si l'équipe de France,
rassurez-moi.
Si l'équipe de France avait gagné, si Mbappé avait marqué 2 ou 3 buts, vous croyez qu'on en ferait autant? Moi, je ne crois pas du tout.
Et si on avait sifflé l'international, alors comment auriez-vous réagi?
Vous êtes ridicule dans tout ça. Vous êtes ridicule. Et après, quand j'entends
votre désamour de la France,
que vous en profitez pour essayer de créer, je ne sais pas, une crise diplomatique...
Absolument pas. On en reste au football en demandant des sanctions.
Et effectivement, je pense que... voilà, allez au match des femmes, parce que ça a l'air d'être vachement plus sympa, plus familial. Ça a l'air de jouer. Il y a moins de cinéma. Et encore une fois, les femmes, elles vont peut-être
rentrer.
Ça peut être autre chose que ce chauvinisme.
J'ai quand même lu un papier. Voilà. Sur...